Vous écoutez France Culture. Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal de midi 30, c'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Rassuré par le recul de la mobilisation des Gilets jaunes samedi dernier, l'exécutif engage à partir d'aujourd'hui une course contre la montre pour mettre en œuvre les mesures sociales d'Emmanuel Macron. Les députés doivent examiner à partir d'aujourd'hui le projet de loi de finances 2019 amendé. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a lui donné le coup d'envoi d'une semaine décisive pour tenter de remettre la Macronie à flot, en détaillant notamment dans un entretien au journal Les Échos les gestes annoncés par le chef de l'État, mais pas seulement, puisque le chef du gouvernement s'y déclare également favorable au principe dit du référendum d'initiative citoyenne, l'une des principales revendications des Gilets jaunes, mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous serons en ligne avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau.
Désamorcer la crise toujours et encore.
Oui, s'agissant cette fois-ci de la mobilisation lycéenne contre la réforme du bac, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer doit lui rencontrer aujourd'hui les syndicats.
Le dossier du 1er mai s'épaissit pour Alexandre Benalla.
L'ancien collaborateur du chef de l'État a de nouveau été mis en examen, toujours pour des violences, en marge du défilé parisien du 1er mai, mais cette fois-ci au Jardin des Plantes, où le jeune homme de 27 ans se trouvait en observateur embarqué parmi les forces de l'ordre. À l'étranger, en Allemagne, tout d'abord, une enquête a été ouverte contre 5 policiers accusés d'avoir formé une cellule d'extrême droite. Nous irons également en Arabie Saoudite après que le Royaume a condamné le vote de plusieurs résolutions du Sénat américain hostile au régime de Riyad. Enfin, c'est cette semaine que le Sénat américain devrait lui publier un rapport détaillant l'étendue de la campagne de désinformation menée par la Russie lors de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec aujourd'hui un retour sur l'œuvre d'un des penseurs les plus brillants et les plus influents de Vienne au tournant du siècle et jusqu'à l'entre-deux-guerres. Il s'appelait Karl Kraus. Il nous parlait déjà à cette époque-là des risques de déclin de l'Europe et de la pensée à travers la langue et la critique. Il a été l'un des pionniers de la critique des médias. On en parlera avec nos deux invités, l'historien Jacques Le Rider, qui vient de publier une grande biographie de ce penseur, et le metteur en scène David Lescot.
Merci, à tout à l'heure. Il faut savoir arrêter une grève, cette célèbre citation signée Maurice Thorez, alors secrétaire général du Parti communiste, lors du Front populaire, et non seulement un poncif des mouvements sociaux, mais aussi et surtout un classique parmi toutes ces formules magiques maintes fois reprises et tronquées, car cette phrase ne saurait être comprise sans sa deuxième partie, dès que satisfaction a été obtenue. Or, c'est évidemment toute la question posée encore ce matin. S'agissant des Gilets jaunes, la mobilisation en net recul samedi dernier marque-t-elle un début de réconciliation après les concessions arrachées quelques jours plus tôt au président Emmanuel Macron ? Difficile à dire, plusieurs blocages sporadiques ont encore été constatés ce matin. Et puis selon un sondage publié hier, avec 23% seulement d'opinion favorable, le chef de l'État reste au plus bas depuis le début de son quinquennat. Ou dit autrement, l'esprit de Noël ne semble pas franchement en mesure pour l'instant, du moins, de faire oublier l'urgence sociale qui aura émergé lors de ces 4 semaines d'ambiance insurrectionnelle. Sans compter que le flou demeure encore aujourd'hui quant à la mise en œuvre des cadeaux accordés par l'exécutif. Dans l'entretien accordé ce matin par le Premier ministre au journal Les Échos, Édouard Philippe estime que les mesures annoncées coûteront de l'ordre de 10 milliards d'euros. Ce qui va contraindre le gouvernement à trouver entre 1 et 1,5 milliard d'économies pour maîtriser les dépenses publiques, mais sans que l'on ne sache toujours pour l'instant véritablement où l'exécutif entend trouver cet argent. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
En fin de compte, c'est toute la faisabilité des mesures annoncées par le chef de l'État qui pose aujourd'hui question, et c'est d'ailleurs ce qui sera à l'ordre du jour de l'Assemblée cet après-midi lors d'un retour de l'examen du projet de budget 19 amendé.
Oui, car la difficulté pour l'exécutif consiste à maintenir les comptes publics en instaurant des nouvelles mesures et sans renoncer à ce qui fait le cœur de sa politique de l'offre, c'est-à-dire le soutien aux entreprises et la baisse du coût du travail. Le budget et ses équilibres vont devoir être rediscutés en un temps record pour intégrer les changements, à commencer par la hausse de la prime d'activité détaillée par Édouard Philippe. Une mesure sans coût pour les employeurs, c'est donc de la redistribution via les finances publiques. Avec les autres mesures, dont l'exonération de la hausse de la CSG pour certains retraités, le coût s'élève à plus de 10 milliards d'euros. Comment vont-ils être trouvés? Alors, en partie en creusant le déficit, ce que contrairement à la semaine dernière, l'exécutif assume désormais et en cherchant à augmenter les recettes mais sans pénaliser les entreprises. Ainsi, l'une des principales annonces sur l'impôt des sociétés consiste non pas à faire payer davantage les entreprises mais à reporter le fait qu'elles payent moins d'impôts. Le taux de l'impôt sur les sociétés doit en effet baisser de 33 à 25% d'ici 2022 et la première baisse prévue l'an prochain sera reportée d'un an pour les grands groupes. L'exécutif annonce aussi des modifications sur la niche Copé qui permet d'exonérer les plus-values de cessions de filiales ainsi qu'une taxe sur les GAFA, mais on ne sait pas encore les modalités et l'efficacité d'une telle taxe. L'effort principal doit être porté par la réduction des dépenses publiques, a réagi ce matin le MEDEF. C'est d'ailleurs aussi ce qui se profile puisqu'Édouard Philippe annonce un exercice de maîtrise des dépenses avec cet inconnu où trouver entre 1 et 1,5 milliard de dépenses en moins comme annoncé. Voilà qui devrait faire l'objet d'un vif débat parlementaire même s'il n'aura que quelques jours pour se tenir.
Merci Catherine Pétillon. J'ajoute qu'Emmanuel Macron réunira demain à l'Élysée des ministres et des acteurs économiques pour organiser la grande concertation nationale annoncée dans le cadre des mesures liées à cette crise des gilets jaunes. Et puis toujours dans cet entretien donc accordé ce matin au journal Les Échos, Édouard Philippe s'est également prononcé pour la tenue prochaine d'un débat sur le référendum dit d'initiative citoyenne. C'était l'une des principales revendications des gilets jaunes dont le leitmotiv reste l'expression directe de la volonté populaire. Alors de quoi s'agit-il exactement? Pour en parler avec nous, invité de ce journal, Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors avant toute chose, peut-être pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste concrètement donc ce type de référendum d'initiative populaire?
Alors le principe serait de donner aux citoyens la possibilité de déclencher un référendum. Voilà pour le principe. Tout repose en réalité sur les modalités de cette procédure qui pose évidemment quelques questions difficiles pour en faire un instrument vraiment démocratique, car ce référendum d'initiative citoyenne peut avoir soit un sens populiste, soit un sens démocratique selon les modalités de son organisation.
Alors précisément, ce type de référendum, au fond, tente à démontrer que les bulletins de vote ne constitueraient qu'une partie seulement de la démocratie. Est-ce que ce type d'expression, censé redonner la parole au peuple, comporte selon vous des risques?
Alors tout dépend justement de trois questions. La première, c'est quel est le nombre de personnes qui peut déclencher la procédure référendaire? Est-ce que c'est 500 000, comme en Italie? Est-ce que c'est 700 000? Est-ce que c'est 1 million? Plus le chiffre est bas, plus le référendum d'initiative citoyenne sera déclenché facilement. La deuxième question, c'est le domaine. Est-ce que les citoyens pourront demander des référendums sur n'importe quel sujet? Le rétablissement de la peine de mort, l'annulation de la dette, le retour de l'impôt sur la fortune, l'abrogation de la loi sur le mariage entre personnes du même sexe. Bref, est-ce que tous les sujets pourront faire l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne ou bien, comme en Italie, certains sujets seront interdits aux citoyens? Par exemple, en Italie, on ne peut pas faire d'un référendum d'initiative citoyenne sur le budget, sur la fiscalité, sur la ratification des traités internationaux. Et puis surtout, il y a un troisième point, quelle est la portée du vote populaire? Aujourd'hui, les lois votées par le Parlement sont contrôlées par le juge constitutionnel. Est-ce que les lois votées par le peuple seront soumises au contrôle du Conseil constitutionnel? Si la réponse est non, il y a un risque et il y a un danger pour la démocratie. En revanche, si la réponse est oui, c'est-à-dire si les lois votées par le peuple peuvent faire l'objet d'un contrôle et notamment vérifier qu'elles respectent les droits énoncé dans la déclaration de 1789, alors le référendum d'initiative citoyenne pourrait prendre un sens démocratique.
Dominique Rousseau, en France, depuis la révision constitutionnelle de 2008, il existe la possibilité de convoquer un référendum, alors à l'initiative cette fois-ci d'un cinquième des membres du Parlement, sauf que ce référendum dit d'initiative partagée, lui, n'a jamais été appliqué. Pour quelle raison?
Jamais, d'abord parce que il faut, vous l'avez rappelé, un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire 185, mais il faut aussi que ces parlementaires soient soutenus par un dixième du corps électoral, c'est-à-dire environ 4 500 000 électeurs. Et donc il est très difficile de réunir ces deux conditions, un cinquième des parlementaires, un dixième des citoyens. J'ajoute qu'il y a aussi une autre condition beaucoup plus, une autre raison beaucoup plus générale qui est que les parlementaires sont d'habitude très, disons, réservés à l'égard de la pratique du référendum, dans la mesure où, avec le référendum, les représentants se taisent et le peuple parle, et ça, les représentants n'aiment pas beaucoup se trouver dans la situation de devoir se taire.
C'est la différence entre démocratie représentative et participative?
Voilà, la question est de savoir aujourd'hui comment réintroduire le citoyen dans le processus de fabrication de la loi. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est pas une crise de la démocratie, c'est une crise de la forme représentative de la démocratie, c'est-à-dire le monopole de la fabrication des lois par les élus. Le principe représentatif, c'est le peuple ne peut vouloir et parler que par ses représentants. Or, aujourd'hui, le peuple veut pouvoir parler en dehors, à côté, voire contre ses représentants. Et il faut donc trouver les instruments. Est-ce que le référendum d'initiative citoyenne est le meilleur? Pas sûr, dans la mesure où le référendum, par définition, s'exprime par l'intermédiaire du vote. Or, pour les théoriciens de la démocratie directe, l'instrument de cette démocratie, c'est, vous en souvenez, hein, c'est l'agora, c'est-à-dire la place publique, là où les citoyens discutent, échangent, argumentent, changent d'opinion en fonction de la délibération. Donc la démocratie directe est plus dans l'échange argumenté que dans le vote.
Une dernière question, Dominique Rousseau. Est-ce qu'au-delà du débat sur ce référendum d'initiative citoyenne, finalement, ce dont témoigne aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas, alors certes, un désaveu flagrant vis-à-vis de la démocratie représentative, mais aussi la preuve finalement que ceux que l'on disait dégoûtés par la politique, je pense aux abstentionnistes, en réalité expriment, sinon une passion, en tout cas un vrai intérêt, un vrai espoir envers la politique au sens large.
Alors vous avez raison, il y a une désaffection à l'égard de la chose politique, mais pas à l'égard de la chose publique. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est, comment dire, à une redécouverte de la citoyenneté. Les personnes aujourd'hui avaient perdu leur qualité de citoyen et le système libéral, d'un point de vue économique, les avait ramenés à un statut de consommateur, d'usager. Et là, ils redécouvrent la citoyenneté. Et ils redécouvrent la citoyenneté comment? Eh bien, en discutant, en échangeant, en parlant sur les ronds-points. Et c'est ça qui fait la citoyenneté. La citoyenneté se découvre par la délibération. Donc le mouvement actuel est un mouvement important puisqu'il est la redécouverte de la citoyenneté. Un individu passe de la qualité de consommateur à la qualité de citoyen et il le fait par la parole.
Merci Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, d'avoir été en direct avec nous. La mobilisation des lycéens marquerait-elle elle aussi le pas, avec un nombre d'établissements perturbés en nette baisse? Le mouvement né il y a 2 semaines dans le sillage de la colère protéiforme des Gilets jaunes proteste notamment contre la réforme du bac qui introduit une part de contrôle continu dans les notes de l'examen, mais aussi contre la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup ou bien encore le service national universel. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Quoi qu'il en soit, afin de désamorcer donc cette crise, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a prévu de recevoir tout à l'heure les syndicats de lycéens.
Oui, calmer la fronde lycéenne, c'est tout l'enjeu de cette rencontre avec les syndicats. Pour tenter de les rassurer, Jean-Michel Blanquer va donc leur présenter la carte des spécialités, une présentation avancée d'un mois, car initialement, elle devait se faire fin janvier. Car avec la réforme du baccalauréat, les élèves de seconde vont devoir choisir au deuxième trimestre, donc au début de l'année prochaine, 2019, 3 spécialités qu'ils auront l'année prochaine en première, en plus du tronc commun à tous les élèves. Ce qui va créer des inégalités entre les établissements, notamment en zone rurale et l'éducation prioritaire, selon Frédéric Ollet, secrétaire général du SNES.
sur les 12 spécialités. En théorie, il doit y en avoir à peu près 4, 3, ça dépend des établissements. Mais on voit déjà énormément de disparités, d'inégalités entre les établissements. Et on sait que ce sont les établissements des petites villes, les établissements plus ruraux et certains établissements de banlieue qui risquent d'être les plus touchés par une compression de l'offre de formation.
Alors on sait déjà que par exemple les disciplines culturelles comme l'histoire de l'art ou encore certaines langues comme le grec et le latin risquent d'être pénalisées. Autre point de contestation, le contrôle continu qui comptera désormais pour 40% de la note finale au baccalauréat en classe de terminale. Les syndicats voudraient que les sujets soient nationaux pour plus d'équité et non pas choisis localement par les enseignants dans chaque établissement comme le prévoit pour l'instant le projet de loi. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation n'a pas encore tranché, il a juste évoqué une base de données dans laquelle les professeurs pourront piocher des sujets. En attendant la rencontre de cet après-midi, les syndicats lycéens ont déjà appelé ce matin à deux nouvelles journées de mobilisation demain et jeudi.
Merci Hakim Kasmi. S'agissant cette fois-ci des universités, une centaines d'étudiants bloquaient encore ce matin une partie de la faculté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine et ce, alors que les examens partiels doivent commencer, les étudiants protestent contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non européens en 2019. Déjà poursuivi pour son intervention controversée aux côtés de la police, place de la Contrescarpe à Paris, Alexandre Benalla, l'ex-collaborateur déchu de l'Élysée, a de nouveau été mis en examen pour des violences en marge du défilé parisien du 1er mai. Mais cette fois-ci au Jardin des Plantes, à l'issue d'un interrogatoire tendu, trois juges lui ont signifié de nouvelles charges pour des délits d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Guillemette Franquet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors en réalité, depuis le début de toute cette affaire, les juges cherchent au fond à savoir si Alexandre Benalla a outrepassé ou non son rôle d'observateur en interférant dans les missions de la police.
Le 1er mai, lors des manifestations à Paris, Alexandre Benalla avait en effet obtenu le statut d'observateur par Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation. Ce statut donne le droit de se mettre du côté des forces de l'ordre pour regarder leur action pendant une manifestation, par exemple, mais en aucun cas d'intervenir. Sauf qu'Alexandre Benalla est sorti du rôle d'observateur. Et d'après ce que l'on sait, ses interférences dans les missions de la police ne daterait pas seulement des manifestations du 1er mai. Les syndicats de police, auditionnés en juillet par la commission d'enquête du Sénat, ont accusé l'ex-chargé de mission de l'Élysée de multiplier les interventions déplacées. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, expliquait ainsi que les cadres de la préfecture de police le connaissaient comme une autorité, car elle voyait Alexandre Benalla participer au débriefing des services d'ordre des manifestations. Alexandre Benalla, lui, s'est justifié à de nombreuses reprises des accusations de violence du 1er mai. C'était pour aider les forces de l'ordre, place de la Contrescarpe, à maîtriser deux individus particulièrement virulents. Ses avocats ont même invoqué l'article 73 du Code de procédure pénale qui donne la possibilité à un citoyen d'interpeller des personnes. Et c'est la même défense qu'invoque Alexandre Benalla pour se justifier face aux nouveaux faits de violence qui lui sont reprochés au Jardin des Plantes. Il parle de réflexe citoyen et lors de son audition du 29 novembre, il aurait même demandé aux trois juges d'instruction: ce n'est pas normal d'arrêter un délinquant et d'aider les policiers. L'instruction poursuit son cours pour toutes ces mises en examen.
Merci Guillemette Franquet. Le parquet de Paris a lui ouvert aujourd'hui une information judiciaire à l'encontre d'un homme de 38 ans arrêté jeudi dernier et soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver utilisé par Shérif Shekat lors de l'attentat de Strasbourg qui a fait, selon un dernier bilan, 5 morts et 11 blessés. Alors que le rôle de l'Arabie Saoudite dans le conflit sanglant qui déchire le Yémen est de plus en plus remis en question, l'assassinat de Jamal Khashoggi a lui aussi terni la réputation du royaume. Et c'est ainsi notamment que la semaine dernière, deux résolutions ont été approuvées aux États-Unis grâce au vote essentiellement de sénateurs démocrates. Alors la première de ces résolutions appelle le président Donald Trump à retirer les forces armées américaines des hostilités au Yémen. Quant à la seconde, elle juge le prince héritier Mohamed Ben Salman responsable du meurtre du journaliste dissident. De sorte que Riyad ne cache plus désormais son agacement et pourtant, ces deux résolutions ne devraient garder qu'une portée en réalité toute symbolique. Tout d'abord car elle ne devrait pas être débattue à la Chambre des représentants et surtout parce qu'il y a fort à parier que le président Donald Trump, lui, passera outre. Les explications de Claude Guibal.
Le coup est symbolique, mais il a porté fort. En adoptant ces deux résolutions, le Sénat américain a clairement jeté une ombre lourde sur la relation si appuyée que Donald Trump entretient avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, l'homme fort du royaume. Le Sénat accuse en effet Mohamed Ben Salman d'être responsable de la mort du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Il demande également à Donald Trump de retirer ses troupes des opérations liées à la guerre au Yémen, où les États-Unis soutiennent la coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite. Ingérence, allégations sans preuve. Dans un communiqué, Riyad a fustigé les décisions des représentants américains, estimant qu'elles allaient nuire à son rôle international et régional. Et l'Arabie Saoudite de préciser, je cite, qu'elle ne souhaitait pas être prise dans des débats politiques nationaux aux États-Unis, car de fait, ce vote porté par les démocrates, mais aussi par certains républicains, est un camouflet pour la politique menée par Donald Trump au Proche-Orient. Pour Donald Trump, l'Arabie Saoudite reste le meilleur moyen de contrer l'Iran dans la région, d'où les hésitations du président américain à prendre position depuis le début de l'affaire Khashoggi. L'Arabie Saoudite, extrêmement critiquée sur la scène internationale, ne peut pas se permettre de perdre le soutien de Washington au moment où nombre de capitales la condamnent publiquement pour son rôle dans le meurtre du journaliste. Hier encore, le Canada a expliqué chercher un moyen pour stopper les ventes d'armes qu'il s'était engagé à conclure avec le Royaume saoudien.
La Corée du Nord dénonce, elle, les nouvelles sanctions décrétées contre elle par les États-Unis. Washington vient en effet de sanctionner 3 dirigeants nord-coréens, dont l'un des plus hauts responsables du régime. Des mesures en réalité, là encore, essentiellement symboliques, puisque le régime reclus de Pyongyang est déjà soumis à de multiples sanctions internationales. Alors que la Russie dément toujours toute ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016, en dépit des rapports de la communauté du renseignement américain qui ont conclu à une intervention russe, eh bien c'est cette semaine que le Sénat américain devrait lui publier un rapport détaillant justement l'étendue de cette campagne de désinformation menée par Moscou. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Il se trouve que des extraits de ce rapport ont d'ores et déjà pu être obtenus par le Washington Post et il en ressort a priori que des millions de publications sur les réseaux sociaux avaient en effet pour objectif non seulement de créer des divisions chez les électeurs mais aussi et surtout d'influencer l'issue du scrutin en faveur de Donald Trump.
Oui, ce sont des milliers de pages, de posts, d'images ou de vidéos générées sur les principales plateformes de mise en réseau, Facebook, Twitter, mais aussi YouTube, Instagram ou Pinterest, qui ont été patiemment analysées par les chercheurs de l'université d'Oxford qui ont rédigé ce rapport pour le compte du Sénat américain. Des comptes qui avaient donc tous l'allure d'authentiques pages d'Américains, des conservateurs, et qui vantaient d'une manière ou d'une autre les mérites de Donald Trump. Mais il y avait aussi de nombreuses pages destinées aux minorités, communautés noires notamment, plutôt des électeurs démocrates, et où l'on poussait plutôt à l'abstention lors du scrutin de 2016. Pour ce qui est de Facebook, par exemple, les seules 20 pages les plus populaires ont été partagées plus de 30 millions de fois. En tout, les rédacteurs de l'étude estiment que la campagne d'influence russe entre 2014 et 2017 a touché quelque 126 millions d'Américains simplement via Facebook, 20 millions supplémentaires grâce à Instagram. Et toutes ces pages, tous ces posts et autres vidéos ont été générés essentiellement par une institution, l'Internet Research Agency, basée à Saint-Pétersbourg, connue dans le monde des geeks et des hackers comme la ferme des trolls, et qui, depuis au moins 2013, s'est faite une spécialité de la promotion des positions du Kremlin, essentiellement en dénigrant les arguments ou la personnalité de ses adversaires désignés, au besoin en relayant fausses informations et calomnies, voire en les inventant de A à Z. L'étude d'Oxford remarque d'ailleurs qu'il est souvent arrivé que cette campagne d'influence fasse preuve de certaines maladresses, rendant ses commanditaires facilement identifiables, certaines adresses de facturation, certains numéros de téléphone, également utilisé pour la facturation des pages de publicité achetées sur Facebook, pointait directement vers les implantations géographiques de la ferme des trolls de Saint-Pétersbourg. La plupart des plateformes de réseau, Twitter, Facebook ou Google, ont mis un terme à ces comptes pilotés par le Kremlin à la mi-2017, 6 mois après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Merci Eric Biegala. Direction l'Allemagne à présent, où un scandale ébranle la police de Francfort. 5 agents ont été suspendus. Ils sont suspecté d'appartenir à la mouvance néo-nazie et d'avoir formé une cellule d'extrême droite, laquelle aurait non seulement échangé des photos de Hitler et de croix gammée via un groupe WhatsApp, mais aussi proféré des menaces de mort, en particulier contre une avocate d'origine turque. Les explications à Berlin de David Philippot.
Cette avocate reçoit un fax début août à son bureau. Elle est habituée aux menaces de mort depuis notamment qu'elle a défendu le garde du corps de Ben Laden, réfugié en Allemagne. Assez classiquement, dit-elle, le mot commence par des insultes. Par exemple, cette fois-ci, « Dégage d'Allemagne tant que tu le peux, sale truie turque », mais la suite de la lettre « prend une tournure beaucoup plus inquiétante. Elle se conclut par une menace de mort explicite. On menace d'abattre sa fille, sont même mentionnés son prénom, son âge, ainsi que l'adresse de la famille. Le mot est signé NSU 2.0. La NSU, c'est le nom d'un gang néo-nazi surnommé les tueurs de kebab qui a assassiné 8 personnes d'origine turque dans les années 2000. L'avocate a défendu une famille de victimes. Elle est habituée aux menaces. Elle dit recevoir 50 lettres de ce type chaque jour, mais elle décide cette fois de porter plainte. Au cours de l'enquête, les policiers remarquent qu'il y a eu une recherche de l'adresse privée de l'avocate sur un ordinateur de la police, mise sur écoute. Perquisition au commissariat du premier secteur à Francfort. 5 policiers, dont une femme, sont suspendus, des nostalgiques du Troisième Reich qui échangeaient sur WhatsApp des photos d'Adolf Hitler et des croix gammées. Dans la presse, l'avocate s'est plainte que la police ne l'a pas informée des développements de l'affaire dont elle a pris connaissance dans la presse. La police se défend en avançant l'argument de la discrétion nécessaire pour résoudre cette énigme dont les auteurs auraient pu effacer les traces.
On termine avec un mot rapide de météo. Le temps cet après-midi sera plus calme, alternant nuages et éclaircies sur l'ensemble du pays, mais aussi quelques ondées, en particulier de la Bretagne au Massif central. Les températures, elles seront généralement comprises entre 5 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.